7h42 en temps universel, RFI Matin, la suite, c'est le journal des sports. Avec vous, Victor Missistrano, on commence par le football. Retour sur les matchs amicaux qui avaient lieu hier. Et le Sénégal jouait à Dublin.
Les Lions de la Teranga ont été menés par l'Irlande pendant une heure. Mais ils ont arraché le nul un partout grâce à un but d'Ismaïla Sarr. Sans Sadio Mané, on le rappelle, hein, qui a décliné sa convocation, les Sénégalais auront fort à faire mardi. Ce sera contre l'Angleterre.
Hier, plusieurs rencontres avaient lieu au Maroc, notamment celle des Lions de l'Atlas.
Les demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde ont dominé la Tunisie 2-0 à Fès avec un but du récent vainqueur de la Ligue des Champions, Achraf Hakimi. À Casablanca, sans son capitaine Geoffrey Kondogbia, la Centrafrique a surpris la Mauritanie 2-1. Et le Niger s'est défait du Gabon 4-3. À noter aussi la victoire facile du Cameroun devant l'Ouganda 3-0 et celle du Burkina Faso contre le Zimbabwe 2-0 avec une passe décisive et un but du néo-international Siria Kerrié.
À présent, direction l'Afrique du Sud où se joue la phase finale de la Basketball Africa League.
Et en attendant, Julien, les quarts de finale qui débutent demain, les 8 équipes en lice disputent des matchs de classement pour déterminer le tableau. À l'Arena de Pretoria, le Creole Star figure d'invité surprise, le club capverdien créé il y a 10 ans ne cesse de progresser au point donc de s'inviter parmi les 8 meilleures équipes du continent, Claire Bargelès.
C'est un drapeau que l'on n'a pas l'habitude de voir à la balle, celui du Cap Vert qui couvre les épaules du capitaine et copropriétaire du Creole Star, Joël Almeida. Le club a fait beaucoup parler de lui lors de la conférence du Sahara le mois dernier à Dakar, en bien, notamment pour avoir battu le champion en titre, le Petro de Luanda, mais aussi en mal, des tensions au sein du groupe à cause de questions de logistique ont conduit au départ de joueurs internationaux et à la suspension pour 2 matchs d'un autre membre suite à une altercation. Pas question de se laisser ébranler selon Joël Almeida.
Cela vous montre le caractère de l'équipe. Nous sommes résilients, même si on a dû se battre contre beaucoup de choses. Pas seulement en dehors, mais aussi sur le terrain. Le plus important, c'est qu'on soit resté ensemble et que notre équipe soit très solide. C'est dans notre ADN. Peu importe les critiques qu'on nous adresse, la mauvaise presse et tout ce qui est fait pour que l'on s'effondre, tout ça, on s'en nourrit. Alors ça peut bien continuer.
Le nouvel effectif s'est en effet montré solide et concentré pour son match de classement contre le FUS de Rabat en gagnant 91-88. Le Congolais Joël Tamboué s'est illustré comme meilleur marqueur de la rencontre pour son équipe.
Je pense qu'on est les underdogs. On va toujours venir ici et jouer dur et gagner le match.
Prochaine étape pour le Creole Star, ce sera ce dimanche en quart de finale face au Al Ahly Tripoli. Claire Bargelès de retour de Pretoria, RFI.
Et puis en cyclisme, la suite du Tour du Cameroun, l'Allemand Lucas Kartensen a remporté hier la 3e étape. Le Camerounais Boris Michel Tiencheux reste maillot jaune, Julien, toujours 58 secondes d'avance sur son compatriote Clovis Kamzong.
Merci Victor Missistrano, à demain. Bonjour Jean-Baptiste Placard.
Bonjour Julien Coquelle-Rouen.
Dans la rencontre de jeudi entre Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi, certains voient une victoire politique pour le chef de l'État congolais, tandis que d'autres soupçonnent un ralliement et parlent d'opposition, de connivence. Comment se faire un avis avec des appréciations aussi contrastées ?
D'abord, une certitude, cette rencontre est un événement marquant de la vie politique congolaise. Mais avant de tirer des conclusions définitives sur les motivations de Martin Fayoulou, comme sur la sincérité de Félix Tshisekedi, les Congolais devraient observer calmement l'évolution de ce climat nouveau, en mettant une multitude de guillemets bien solides au substantif « rapprochement ». Le diagnostic posé par Martin Fayoulou se fonde sur des réalités que vivent douloureusement dans leur chair des millions de Congolais. Oui, la RDC est dans une passe difficile et même en danger. Oui, le sang des Congolais a trop coulé. Mais devant un tel tableau, les leaders politiques devraient-ils constater et laisser faire, en espérant voir le chef de l'État déstabilisé, disqualifié ou renversé ? Ou alors surmonter les rancœurs pour sauver l'essentiel qui peut encore l'être. Voici venir les jours où les hommes d'État ayant le sens du sacrifice et de l'intérêt général se distinguent à l'opposé des tacticiens de la politique qui rapportent tout au profit personnel qu'ils peuvent en tirer. Au regard du contentieux historique entre lui et Félix Tshisekedi, il a probablement fallu à Martin Fayoulou un certain courage pour oser une telle initiative.
Est-ce pour cela que certains le soupçonnent de se positionner pour le poste de Premier ministre ?
Dans ce monde, beaucoup aiment prêter aux autres leur propre mesquinerie. Le souci de l'intégrité territoriale et des victimes du M23 ne devrait pas être irrémédiablement suspect. Il est facile pour chacun de désigner l'autre comme opposition de connivence, de se proclamer opposition de rupture à bonne distance de l'opposition armée. Mais certains se positionnent à leur manière en laissant la gangrène se propager avec le cynique et secret espoir que la déconfiture aura raison du pouvoir qu'ils combattent et leur profiterait. Comme Premier ministre, Martin Fayoulou, qui sait, serait peut-être moins incompétent que d'autres. Après tout, en 2018, lorsque son nom a surgi dans la présidentielle en RDC, les échos venant de Bamako vantaient ses qualités de dirigeant du temps où il officiait à la tête de la compagnie Exxon Mobil au Mali, où la jeunesse admirait son leadership stimulant. Il l'incitait à se surpasser, accroissait la productivité de tous et de chacun en payant mieux les salariés. Cela ne garantit évidemment rien, mais s'il était finalement l'exception qui confirmerait la règle de l'incurie généralisée.
Et Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi accusent ouvertement Joseph Kabila aujourd'hui d'être derrière la rébellion du M23.
Joseph Kabila avait sous-estimé Félix Tshisekedi, qu'il espérait sans doute manipuler comme tant de politiques plus préoccupés par leurs intérêts tortueux que par le destin de leur peuple. Et si lui-même faisait partie du problème ? Avant 1997, il était totalement inconnu des Congolais. Puis, en janvier 2001, du jour au lendemain, il s'est retrouvé aux commandes de ce grand pays, au mépris de tout cadre constitutionnel. Son grand mérite était d'être le fils de Laurent Désiré Kabila, assassiné par une main aussi mystérieuse que les intérêts opaques des armées étrangères qu'il avait portées au pouvoir 4 ans plus tôt. À la faveur d'une rébellion expéditive, les Congolais ont donc eu le père 4 ans et le fils 18, en pure perte, comme les 32 ans de Mobutu. Et personne ne s'étonne de cette maladresse qui consiste pour un ancien chef de cet état-là à transiter pour regagner sa patrie par Kigali, capitale accusée de télécommander la rébellion du M23. Et il n'imagine pas que s'afficher avec les mêmes rebelles à Goma sous contrôle est une faute politique. Quel consternant désastre serait-ce si le sursaut auquel appelle Martin Fayoulou devait consister à seulement redistribuer les places autour de la mangeoire sous les yeux ahuris d'un peuple congolais qui, depuis 6 décennies, résiste frénétiquement à l'avilissement.
Jean-Baptiste Placard, merci beaucoup. C'est un appel signé notamment par RFI à l'initiative de Reporters sans frontières et du comité de protection des journalistes. Plus de 130 médias et organisations ont signé cette semaine un communiqué pour demander l'accès immédiat, indépendant et sans restriction des journalistes internationaux à la bande de Gaza et la protection des journalistes palestiniens qui sont encore sur place. Car depuis le début de la guerre dans l'enclave palestinienne, près de 200 journalistes gazaouis ont été tués par l'armée israélienne. Selon Reporters sans frontières, l'ONG française a porté plainte auprès de la Cour pénale internationale et réclamé que les reporters puissent bénéficier du statut de victime auprès de la Cour, une démarche inédite dont on parle ce matin dans Menace sur l'information, avec le témoignage de l'un des journalistes actuellement témoin dans la procédure, le photoreporter Mohamed Zahanoun. Il était à Paris cette semaine pour témoigner au nom de ses collègues palestiniens morts et vivants de Gaza. Abla Junaidi.
En 20 ans de journalisme à Gaza, Mohamed Zahanoun a couvert 10 guerres israéliennes. Être journaliste à Gaza, raconte-t-il, c'est aussi chercher à survivre, tenter de sauver ses proches. Désormais en exil en Europe, il témoignait à l'Assemblée nationale ce mardi au micro de Lila Okinwara.
Le danger est toujours là. Mes frères et sœurs sont eux aussi journalistes. Durant 20 années, je me suis attelé à enseigner et former ma propre famille au journalisme. Ils font le même métier. Il y a quelques jours, mon petit frère a été blessé directement en couvrant la situation, le génocide en cours dans la bande de Gaza.
Mohamed a perdu sa maison et aussi une partie de son visage dans une frappe israélienne à Gaza. Il avait dû se tenir loin de sa famille pour ne pas l'exposer aux frappes, car oui, les journalistes à Gaza sont des cibles de l'armée israélienne. Reporters sans frontières peut le prouver pour au moins 45 des 200 journalistes tués depuis 2023. Jonathan Daguerre, responsable du bureau Moyen-Orient de RSF.
C'est largement, pour ne pas dire uniquement, mais largement grâce à ces journalistes qu'on est capable aujourd'hui de voir ces crimes que l'armée israélienne est en train de commettre dans la bande de Gaza. Et c'est pour ça qu'ils sont ciblés. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on défend ces journalistes. C'est une action inédite un peu. Aujourd'hui, on a envoyé des demandes de participation de journalistes qui sont heureusement vivants, qui ont survécu à ce massacre, qui sont en exil. On demande que la Cour les accepte en tant que victimes, parce que le statut de victime devant la Cour, c'est différent. Ce ne sont pas des témoins. Ils ont la chance de demander des réparations, d'être entendus de façon différente devant la justice internationale. On a des preuves, des éléments, des témoignages qui montrent une vraisemblance de ciblage direct de ces journalistes.
RSF a déposé 4 plaintes au total devant la CPI pour enquêter sur les crimes contre les journalistes à Gaza. Des journalistes qui, en plus des bombes, sont aussi victimes de critiques disqualifiantes, tantôt accusé d'antisémitisme ou d'être le relais de propagande du Hamas.
Couvrir ce qui se passe n'était pas un choix. J'ai été obligé de le faire, car autour de moi, il y avait l'oppression, les meurtres, la famine, le siège, le génocide. Et donc, il me fallait transmettre tout cela de façon fidèle et réaliste. Le vrai journaliste, c'est celui qui voit avec ses yeux d'humain et transmet de façon professionnelle ce qui se passe.
En attendant que la justice fasse son chemin, Mohamed, loin de Gaza, tente de faire entendre la voix de ses collègues, tout en gérant ses nombreux traumatismes, les cris des enfants qu'il n'a pas pu sauver et qui résonnent toujours dans sa tête.
Et il y a 2 semaines, une vingtaine de sociétés de journalistes, dont celle de RFI, ont signé une tribune pour appeler les autorités françaises à faciliter l'évacuation de leurs collaborateurs gazaouis en danger de mort. Bientôt 8h en temps universel, bientôt la fin de RFI Matin. D'abord, comme chaque samedi, on retrouve Lucie Bouteloup et ses rencontres avec les amoureux de la langue française à la découverte de leurs mots fétiches. C'est un mot, une histoire.
C'est un mot vif, têtu, aussi rapide qu'un coup de cœur. C'est un mot insolent. C'est un mot qui frappe, qui réveille, pour ne pas dire ressuscité.
Elle est née à Port-au-Prince, en Haïti. Autrice, comédienne, humoriste et metteur en scène, Gaëlle Bien-Aimée est bien connue de notre radio. Et en 2022, elle a remporté le prix RFI Théâtre pour Port-au-Prince et Sa douce nuit. Membre de l'organisation féministe Neges Mahon, elle se définit comme artiviste. Un engagement qu'on retrouve d'ailleurs dans le mot qu'elle a choisi de partager avec nous pour cet épisode.
Un mot, une histoire. Lucie Bouteloup.
Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du mot fulgurance. J'étais avec une amie autrice, elle est libanaise, et on parlait de cette passion qu'on a en dépit de tout, en dépit de la guerre, cette envie de vivre, cette fulgurance, et ce mot est revenu comme un mot que j'utilise dans mes poèmes, et voilà, c'est un mot éclat, c'est un mot soleil, c'est un mot résurrection, c'est un mot je résiste, c'est un mot je suis debout, vertical. C'est un mot face à moi-même. C'est un mot lumineux, c'est un mot qui dit l'avenir, c'est un mot espérance.
Mais c'est un mot en même temps qui est chargé d'une certaine forme de violence, puisque c'est quelque chose, la fulgurance, qui frappe l'esprit de manière très rapide, très forte.
En fait, en créole, nous en Haïti, on dit, par exemple, quand quelqu'un va mourir, il y a un dernier sursaut de vie, on appelle ça transport en mort. Et la fulgurance, c'est ça. C'est ce truc qui arrive en nous-mêmes pour nous garder debout le temps qu'il faut. Et il faut ça aussi, face à cette violence extérieure, à ce tumulte extérieur. Il faut qu'on soit époustouflant. Il faut qu'on soit, voilà, dans la fulgurance.
L'inspiration, c'est la fulgurance pour vous?
Oui. En fait, quand il pleut beaucoup en Haïti et comme il y a beaucoup de problèmes de canalisation, il y a un avalas d'eau qui part, c'est aussi violent que ça. Ça vient avec les larmes, ça vient avec beaucoup de rire. Je ne sais pas d'où ça vient. Ce sont des choses que je ne trouve pas tout le temps dans le processus de l'écriture.
Et puis avec la fulgurance, il y a aussi cette idée de quelque chose qui n'est pas attendu. Vous n'aimez pas ce qui est attendu?
J'aime bien quand ça arrive là où je ne l'attends pas. C'est ça aussi la fulgurance. c'est quand je suis derrière une moto, un taxi-moto à Port-au-Prince, et je vois quelque chose et j'ai envie d'écrire un long poème. Un poème urgent. Et que je prends mon téléphone et puis j'écris rapidement. Je suis derrière la moto, j'écris quelque chose. Ça vient, ça sort, ça gicle. Comme j'ai, voilà.
Selon le dictionnaire en ligne de l'Académie française, fulgurance désigne ce qui a l'éclat, le brillant de l'éclair.
C'était un mot, une histoire.
Une chronique avec le soutien de la Délégation générale à la langue française.
L'autrice et comédienne haïtienne Gaëlle Bien-Aimée avec Lucie Bouteloup. Elle est actuellement en tournée aux États-Unis avec son spectacle Qu'est-ce qu'on fait, avec une date le 28 juin prochain à Fort Lauderdale en Louisiane. Bientôt 8h en temps universel et on se quitte en musique comme chaque matin avec les frères Saglio, un duo français, Camille et Mathieu ils s'appellent, et leur titre Ginkgo Biloba dans la sélection du mois de RFI.
Kairi turu kachikiaye, Clément Lapin, qu'on quiere faire. Akera yoroye, ubenaye kumabe, Nachinko biloba. Finyan beti, inye dala. Pa me dongili, ta defe. Ampeye le doni, yechite podoni. Na chinko biloba. Akajan, Clemina nintiye, Nyete bikono, Nyete bemirila. Ambe, baroni kiye, Ambe donke kerefe, Nachinko biloba.
Camille et Mathieu Saglio, Ginkgo Biloba dans la sélection du mois de RFI que vous retrouvez sur musique.rfi.fr. Et c'est la fin d'RFI Matin. Merci à Steven Elsley à la réalisation de ces 3 heures. On se retrouve demain dès 5h, temps universel. Et d'ici là, l'info continue. Très bonne journée à l'écoute de RFI.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
Et si on osait sortir des sentiers battus à Locogriade pour filer vers une gambasse snackée à l'huile rouge, compotée de tomates déglacées au vinaigre de mangue, semoule de niébé en accompagnement? Oui, je sais, pure merveille. Black Culinaria, cuisine noire, nouvelle, pépite au pluriel, avec la chef Sonia Marty-Socoury, ce dimanche à 11h30 en temps universel.
Le goût du monde. Clémence de Navi sur RFI.